Mais on en a d'autres.
Et les tirailleurs sénégalais sont utilisés pour la pacification, c'est-à-dire la conquête de leur propre pays, c'est ça?
Au départ, effectivement, ce sont des missions de protection. On n'est pas encore dans une, au moment de leur création, on n'est pas dans une période d'expansion militaire à proprement parler. On est dans une période où il faut protéger le commerce, les comptoirs, et on commence à faire de grandes explorations, des missions d'exploration à l'intérieur des terres, dans lesquelles des colonnes de tirailleurs sénégalais vont, en quelque sorte, sécuriser les convois, qui sont soit des convois d'exploration militaire, à destination de création de cartes, de zones d'influence dans la perspective éventuelle d'une colonisation, soit même des missions scientifiques. On est aussi dans la découverte, je dirais, du continent du point de vue humain. Il y a des missions ethnologiques, enfin, qu'on n'appelle pas ethnologiques à l'époque, mais d'exploration, dans lesquelles ils vont servir, évidemment, à la sécurisation.
On joue, évidemment, comme quand la colonisation va vraiment se sédentariser, à partir de 1870-1880, on va aussi jouer des antagonismes présupposés d'une population sur une autre, donc on va recruter dans une région des supplétifs de façon à aller casser la gueule de la région suivante parce qu'ils sont réputés se haïr depuis des temps immémoriaux, et puis on va donner des récompenses aux tirailleurs. C'est très important parce que avant que ce soit une troupe qui soit réellement réglementée, elle le sera avec Federbe en 1857, mais ça va mettre très longtemps à se mettre en place, on va évidemment, il faut leur accorder en échange un droit de suite, le fait de pouvoir s'emparer des biens et des femmes. Très souvent, quand on lit les récits des Européens qui commandent ces colonnes, un des premiers butins que prennent les tirailleurs sont les femmes, parce qu'il ne faut pas oublier, et d'ailleurs on le retrouvera dans le discours de Mangin plus tard, que ce qui coûte très cher, c'est de se marier, c'est le prix à payer pour une dot. Donc un tirailleur à qui on va laisser s'emparer de plusieurs femmes ou de troupeaux, ça devient évidemment une affaire extrêmement intéressante. Et c'est comme ça que la plupart des colonnes de conquête sont rétribuées.
Les grands chefs blancs se penchèrent au chevet des misérables et s'informèrent de leurs besoins.
Moi, ce qui me semble très intéressant du point de vue socio-historique dans la formation des tirailleurs sénégalais, c'est que pour la première fois, on a un groupe social, appelons-le comme ça, qui va être un groupe social intermédiaire, finalement situé à l'interface entre les autorités coloniales et puis les sociétés colonisées d'où ils proviennent. Les recrutements sont divers, hein, ce sont des recrutements qui se font par libération d'esclavage, par opposition d'une ethnie à une autre. C'est aussi souvent des recrutements qui se font avec des gens qui sont plus ou moins les proscrits des villages. Donc, des gens qui trouvent un moyen moment donné, aussi d'accéder à un niveau supérieur sur le plan de l'échelle sociale. On voit en fait dans l'expérimentation, la formation de ce groupe, ce qui pour moi constitue les prémices de la doctrine d'assimilation. C'est-à-dire qu'avant d'être réellement formulée par les Républicains en 1880, ça se joue en fait dans le corps des tirailleurs sénégalais. Des gens qui vont ne pas être vraiment dans la société coloniale parce que on les accepte en tant que militaires, mais enfin il y a tout un tas de signes qui va les distinguer au sein de l'armée et de manière volontaire, de manière à leur garder un statut qui est quand même un statut d'infériorité, et en même temps ils sont plus dans la société africaine non plus. Donc ils accèdent à une modernité, effectivement ils vont accéder notamment à l'économie monétaire, ce qui est quand même un pas énorme. Ils ont une solde même si elle est modeste, et ils vont être instrumentés, on le voit bien, c'est dès le départ, ils sont instrumentés dans les conquêtes territoriales en Afrique noire, dans la conquête du Maroc et de la Tunisie, et puis plus tard, dans les guerres coloniales.
On est en train d'évoquer une époque, l'époque coloniale, et tout ce que vous dites là est choquant pour nous aujourd'hui, qui avons dépassé l'époque coloniale. On est en train de raconter un pays, un empire, la France, qui va prélever des forces humaines pour en faire de la chair à canon. Notre lecture actuelle, est-ce qu'à l'époque, on trouvait cet esprit anticolonial qui nous a gagné à peu près tous aujourd'hui?
Non, il ne faut pas non plus oublier qu'à l'époque, on n'a évidemment pas conscience de ça, on a même conscience d'autre chose. Quand on lit les textes dans la presse française avant 1914, on n'a absolument pas idée que ces hommes qui viennent au secours de la France vont nous créer des devoirs. Au contraire, c'est l'inverse. Il y a un texte du général Messimi, qui est ministre de la guerre et qui a été un colonial, qui dit « L'Afrique nous a coûté des flots d'or et de sang. Cet or et ce sang, l'Afrique doit nous le rendre au centuple. » C'est-à-dire qu'en échange de ce qu'a apporté la colonisation française, la mission civilisatrice, mais non seulement en Afrique noire, au Maghreb, en Indochine, il faut bien... C'est important l'Indochine, hein, parce que c'est une des colonies qui est censée marcher. Eh bien... En échange de ce que la mère patrie a amené, eh bien, ces enfants que nous avons sortis pratiquement des ténèbres, doivent évidemment payer leur écho. Et c'est comme ça qu'en 1914 jusqu'à 1918 est vu l'engagement, mais c'est à nouveau comme ça en 1939 et en 1945 qui est revu l'engagement de ces contingents.
C'est quand même un basculement de mentalité.
Mais complètement.
Total.
Et quant au courant anticolonial, Nicolas, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, peut, je crois, aussi en témoigner, il est tout à fait mineur.
Et je crois qu'il faut bien se replacer dans la fin du 19e siècle. C'est une autre société, c'est un autre monde qu'on a du mal à pénétrer.